Voilà. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un sujet particulier, c'est la tristesse. Mais pas pour rester triste, hein. Alors je peux en parler ce matin parce que ça va mieux. Il ne faut pas parler de la tristesse quand on est triste, il faut en parler après. C'est un sujet que j'avais... C'est quelque chose qui m'a touché avec une conjonction de choses, les événements qui se sont passés là, mais plein d'autres choses aussi. Et puis j'ai vécu la semaine dernière surtout, mais début de cette semaine, dans un état de tristesse, mais qui n'était pas... J'étais pas triste pour quelque chose en particulier, je portais de la tristesse sur moi. 2-3 fois, j'ai eu besoin de partir quelque part pleurer un moment tout seul, parce que c'était pas parce que... je pouvais même pas dire pourquoi, mais j'étais triste. Et puis, c'est une tristesse qui m'a conduit à Dieu et qui m'a fait beaucoup du bien. Et puis, j'ai médité sur ce sujet-là pendant ces jours-là. Et je vais vous lire un premier texte dans Matthieu 26, 37. Virginie, conduite comme toujours par le Saint-Esprit, nous a amené dans les dernières paroles du Christ. Et là, c'est un petit peu après, hein, après qu'il ait remercié, même s'il savait qu'il allait mourir. Matthieu 26, 37, Jésus prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Ça c'est Jésus avant d'aller à la croix. Hein. C'est un passage moi qui m'a toujours touché parce que ça nous montre... que ce n'était pas une formalité à régler la croix pour Christ. Hein. Je suis venu sur terre pour ça, alors bon voilà, on va le faire, finissons-en, je rentre à la maison. Non. Il était pleinement humain comme nous, et puis il y avait cette angoisse, cette tristesse. Mais je pense, et peut-être je me trompe, mais il me semble quand même qu'une bonne partie de cette tristesse, ce n'était pas juste ce que lui allait vivre, qui était déjà horrible, ça suffisait, hein. Mais c'est parce que justement, il voyait toute cette source de tristesse dans le monde et dans les siècles à venir et dans les siècles passés. Et puis, il savait qu'il allait prendre tout ça sur lui dans un seul moment. Hein. Et on ne peut même pas imaginer ce que c'est, parce que nous, une petite chose qui nous rend triste, déjà, on est écrasé. Et là, imaginez la saleté du monde entier dans l'histoire de l'humanité qui est concentrée sur une personne... il en était au point où donc, physiquement il transpirait des grumeaux de sang quoi. C'est pas, hein, on peut comprendre pourquoi et dans ce moment là j'allais dire malheureusement mais il n'y avait pas de choix, lui il était seul, hein. Il aurait aimé que ses disciples soient avec lui plusieurs fois venez avec moi au moins vous les trois là. Vous pouvez rien faire, mais juste avoir quelqu'un avec moi dans ce moment-là, quoi. Et puis, ça n'a pas marché. Les disciples étaient accablés de sommeil. Ils devaient être aussi tristes parce qu'ils sentaient bien qu'il se passait quelque chose, même s'ils ne savaient pas exactement ce qui allait arriver encore. Mais Jésus a dû traverser ce moment tout seul, et puis ça l'a conduit jusqu'à la solitude la plus extrême quand il est sur la croix, et que là, même son père tourne les yeux pendant un moment parce que il ne peut plus communier avec lui. Pour la première fois de l'histoire de la Trinité, il y a une scission dans ce noyau indissociable, hein, parce qu'il s'est fait pécher pour nous. Et puis bon, effectivement, après, il y a quelques jours après, il sort, la victoire, la lumière, etc. Hein, pour les disciples, notre chemin. Et il a pris sur lui toute cette souffrance-là, toute cette tristesse, toute cette peine, et puis il l'a portée pour nous. Et l'apôtre Paul, j'ai souvent eu du mal avec ce passage, longtemps après, donc Paul va persécuter l'Église, après il est arrêté, et puis Jésus lui dit « Pourquoi tu me persécutes comme ça ?» Et puis lui-même va souffrir à cause du témoignage de l'Évangile. Et il dit ceci dans une lettre aux Colossiens, Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée à ce qui manque aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais du mal avec ce verset, quoi. Si on le comprend mal, on dirait bah, « Seigneur, tu n'as pas souffert assez, alors je vais souffrir un peu plus pour compléter. Hein. » Alors, ce n'est pas ça, bien sûr. Ce n'est pas non plus le fait que l'œuvre de Christ n'était pas complète et puis qu'il en fallait un peu plus. Ah. Non. On ne voudrait pas que tu sois triste, petit homme, mais tant pis. Mais en fait, ce que Paul dit, c'est que pour accomplir la mission qui m'a été confiée, je vais prendre sur moi une partie de la tristesse et de la souffrance que Christ a lui aussi portée à moi. Je vais communier à cette tristesse-là, quoi. Parce que les souffrances de Paul, c'était pas des souffrances parce qu'il avait fait le mal ou parce que il était dans les difficultés, parce qu'il voulait suivre le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Hein. Il souffrait parce que les églises qu'il avait implantées allaient mal, parce qu'il y avait des faux docteurs qui venaient semer la panique, parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient faibles, qui tombaient. Ce n'était pas une souffrance ou une tristesse par rapport à sa situation à lui. Bah, il en avait aussi, puis ça, il savait le porter. Mais c'était les difficultés du corps de Christ qui pesaient sur lui. Hein. De la même façon que la souffrance et la tristesse de ce monde ont pesé sur Christ. Et finalement, en fait, c'est une, ça fait partie du lot dans notre vie chrétienne. Hein. On veut communier avec Christ parce qu'on a besoin de son amour, de sa paix, de sa douceur, et c'est normal, hein, on en a besoin. Et Christ veut nous amener un peu plus loin aussi dans la maturité avec lui, et par moments, il veut partager avec nous sa tristesse pour ce monde. Mais ce n'est pas une tristesse qui a pour but de nous abattre. Parce que c'est une tristesse qui est la conséquence de l'amour. Hein. Si on aimait personne, on ne serait jamais triste. Absolument personne. Même pas nous-mêmes. Hein. Pourquoi on est triste? Parce que des gens qu'on aime souffrent. Hein. Parce qu'on est touché par, quand je dis aimer, c'est dans un sens très large. Hein. Mais c'est la raison d'ailleurs pour laquelle souvent, ben, y a des catastrophes dans le monde, ça ne nous touche pas trop. Parce que c'est pas des gens, quoi. C'est pas qu'on les aime pas, mais on les connaît pas, quoi. Je dirais, et heureusement, hein, on n'est pas Christ. Hein. Jésus nous a demandé de nous occuper de notre prochain, pas du monde entier. Hein. Y a que lui qui a pris le monde entier. D'accord. Donc, y en a assez avec notre prochain. Mais les personnes ou les situations que Dieu met sur notre cœur, c'est ça notre prochain. Même si des fois Dieu met sur notre cœur une situation de quelqu'un qui est loin, c'est pas grave. Hein. Et dans ces moments-là, on va un petit peu partager sa tristesse pour le monde. Mais en même temps, c'est une tristesse qui, bon, pour lui, qu'il a dû vivre seul, pour nous, qu'on ne vit pas seul. C'est une tristesse qui va nous amener dans une communion avec Christ, peut-être qu'on ne connaissait pas. Si vous avez un ou une ou un ami très proche, ben, vous n'êtes pas vraiment son ami tant que vous n'avez pas aussi pleuré avec lui. Hein. Quelqu'un qui serait votre ami que quand ça va bien, bah, c'est un ami sympa, mais c'est pas un vrai de vrai. Parce que si le jour où ça va pas, vous pouvez pas l'appeler pour pleurer avec lui, même pas pleurer, mais pour partager ce qui va pas et puis savoir qu'il est touché aussi par votre tristesse, bah, c'est bien, mais c'est autre chose quand on a aussi partagé des moments difficiles. Et Christ veut, pas pour nous laisser dans l'abattement du tout, mais par moments, un tout petit peu, parce que ça nous écraserait, hein, nous faire toucher cette tristesse-là. Et elle peut produire des choses qui sont positives. Je me rappelle quand Pascal nous a parlé de cette dame qu'il avait retrouvée au Brésil et puis qui était en fin de vie, etc. C'était triste et c'était beau. Mais c'était une tristesse qui, ben on a vu dans ta vie ce que ça a fait, qui t'a motivé vers l'avant. Hein. Et c'est ce que Christ veut faire avec nous. Vous voyez, cette petite chose-là, elle vous touche, hein. Ben moi, j'ai ce fardeau-là pour l'humanité. Et puis, ça me fait plaisir de le partager avec vous parce que je vous dis que vous êtes mes amis, vous appréciez être mes amis, mais ben souvent, j'aime être avec vous pour faire la fête. Et puis, des fois, il y a aussi ça et on le partage ensemble. Et Paul, dans un autre contexte, dit, c'est ainsi, Philippiens 3:10, c'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection, et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Ce n'était pas un verset qui parlait de la résurrection des morts pour après. Hein. C'était le fait qu'il avait appris que dans les moments de difficulté dans sa vie, de communion aux souffrances du Christ pour le monde qui souffre, il allait traverser ça avec lui et recevoir la provision de Dieu pour vivre de la vie de résurrection dans cette vie. C'est-à-dire pour pas que la tristesse devienne de la désespérance. La tristesse est une des choses qui nous rapproche du cœur de Dieu. Et là, il va prendre soin de nous, parce que lui, il a vécu seul pour que nous, on ne soit pas seul. Et maintenant, nous, on va le vivre et ça va nous ramener à la vie de résurrection. C'est un des processus par lesquels on s'approche du cœur de Dieu. Ce n'est pas celui qu'on préfère, on ne le choisit pas. Ce n'est peut-être pas le plus fréquent, heureusement, parce qu'on n'est pas fait pour vivre tout le temps triste. Mais c'est quelque chose qui est très beau aussi, parce qu'après ce poids, il y a le réconfort et puis il y a la vie de résurrection derrière. Hein. Nous, on aimerait arriver à Pâques sans passer par le vendredi. Quoi, hein. Hop, on saute. Hein. Il y en a qui arrivent à oublier les vendredis, mais c'est un autre sujet. Moi, j'y arrive quand il ne faut pas. Et Christ a fait ça. Et puis, il y a une autre chose que Paul explique. Quand il parle d'une situation où, en fait, il y avait un problème avec les Corinthiens, et puis il leur a parlé un peu durement, quoi, pour les reprendre, pour les aider. Et il leur dit ceci. Il dit, ouais, je suis content que vous ayez eu cette tristesse. Alors on peut dire, ouais, c'est un peu dégueulasse, quoi. Il est content qu'il soit triste. Mais il dit non. La tristesse, selon Dieu, produit, 2 Corinthiens 7-10, produit un changement radical qui mène au salut, que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse, ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité n'est jamais une bonne motivation dans la vie chrétienne. Jamais, jamais. Hier soir, j'ai parlé de vous aux jeunes à un moment. Parce qu'on prenait l'exemple de méditer sur le fait que Dieu nous aime et que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour cette motivation. Et je leur dis, vous savez, quand je suis arrivé pasteur en Suisse, il y avait une église avec plein de monde dedans le dimanche matin. Et puis... je leur ai dit, vous savez, si vous n'avez pas vraiment, vraiment à cœur de venir sans aucune obligation, ne venez plus. Et depuis, on est beaucoup moins nombreux le dimanche matin. Mais je suis tellement content parce que maintenant, je sais avec certitude que tous les gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Et puis même si on est deux, ce n'est pas grave, même si je suis tout seul, je ne m'ennuie pas. Mais ce n'est jamais arrivé. Hein. Et j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de venir. Hein. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que des gens viennent. Hein. Mais la culpabilité, c'est jamais une bonne motivation. Alors, je me suis un peu vanté de vous auprès des jeunes. Il y a une église où les gens savent ça et ça se passe bien. Ça existe, si, si, si. Ils vont aller comme ça. Je ne sais pas si, d'ailleurs, les quelques dirigeants adultes qui étaient au fond de la salle ont autant aimé mon discours que les jeunes. Ils n'avaient qu'à pas m'inviter. On coupera l'enregistrement. Non, mais c'est une réalité. Donc la culpabilité, c'est jamais une bonne motivation. Mais la tristesse, c'est pas la culpabilité. La tristesse fait partie des choses qui nous rapprochent de Christ pour un moment, mais pas pour y rester dedans, pour en sortir et découvrir la vie de résurrection avec lui. Hein. Parce que la mort n'a pas le dernier mot avec lui. Mais en même temps, on ne peut pas, en tant que chrétien, dire « Ah ben non, on est chrétien, la tristesse, non, parce que Jésus est ressuscité, alors on n'est pas triste. Hein. » Non. Avant la croix, il était triste. Pendant la croix, il était triste. Oui, après, à la résurrection, on est plus triste. Hein. Et Jésus, souvent, a été bouleversé. Quand il est devant Jérusalem, et lui, il sait, parce que il connaissait toutes choses dans sa divinité, que cette ville va être rasée 70 ans plus tard, que tout le monde va être dispersé, les souffrances qu'il va y avoir, il pleure, ça lui fait mal, il est triste. Et en même temps, parce qu'il sait qu'il voulait tellement, il dit, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Il y a tellement de tendresse maternelle dans cette image. Hein. Et puis, vous ne l'avez pas voulu. Quoi, hein. Et ça, c'est sa tristesse. Mais il y a la vie de résurrection derrière. Et il veut nous amener. Alors, je crois que c'est quelque chose qui est important qu'on apprenne à faire. Parce qu'on peut, selon notre tempérament et notre éducation, et tomber dans un piège ou dans l'autre. Hein. Soit cette idée du chrétien qui est fait tout en métal, les émotions qu'on n'est pas, tristesse qu'on n'est pas, avec Dieu tout va bien tout le temps, hein, super. Non, ça c'est faux, c'est pas vrai. Mais en même temps, on ne peut pas vivre abattu dans la tristesse tous les jours de nos vies, et puis ça amène à la dépression, et c'est pas ce que Dieu veut. Hein. Ça peut arriver, mais c'est pas ce qu'il veut. Mais par contre, d'accepter cette tristesse qui vient de Dieu pour faire un travail en nous, pour communier avec lui, et puis là, parce qu'il ne nous laisse pas seuls, on chemine avec lui dedans, en lui parlant, en lui disant, « Seigneur, mon âme est triste jusqu'à la mort. Hein. » Avec vos mots à vous, toujours. Hein. Moi, pendant ces quelques jours où j'étais très triste, j'avais ces paroles d'un chant de Renaud qui était tout le temps dans ma tête en boucle. Il dit ceci, cœur à prendre, pas à vendre, à donner, un peu naze, un peu d'occase, un peu cassé. Cœur en miettes, en détresse, en compote, en morceaux, en lambeaux au fond des bottes. Il a pleuré en silence pour l'éternelle souffrance de ce monde. Il dit des belles choses des fois, hein, souvent même. Et j'avais ces paroles qui étaient tout le temps là, et je me disais, j'espère que ça n'a pas duré trop quand même. Hein, c'est... Et puis... Je vais terminer avec ça. Dieu m'a fait encore une fois cadeau d'un super moment avec lui. C'était mercredi soir après votre rencontre là. Bon, en fait, on a tourné beaucoup en rond, mais on n'est pas arrivé à sortir de notre rencontre à Bienne, hein, je parle. Parce qu'on a débattu sur ce qui se passait, puis c'est vrai que c'était, voilà, on était dedans, on avait du mal à sortir pour aller plus loin. Hein. Puis en rentrant, je pouvais pas rester comme ça, quoi. Alors j'étais depuis quelque temps sur un psaume, le psaume 4. Et puis, ouais, le psaume 4 qu'on a vu un petit peu jeudi soir, mais depuis c'est terminé. Voilà, on y a passé un moment dessus. Et puis, c'était magnifique parce que j'ai pu vivre tout ce processus au travers de ce psaume. Crier à Dieu, vivre la tristesse avec lui et puis en sortir pour aller... dans la consolation et la vie de résurrection. Alors, ça devient un peu une tradition, mais tant pis, ça ne durera pas. Hein. Chez moi, les choses ne durent pas, hein, mais en ce moment, c'est comme ça. Je vais terminer en vous lisant cette version du psaume 4. Et il se trouve qu'en rentrant de la réunion de prière jeudi soir, j'avais pas de CD, c'est rare, dans ma voiture, et j'ai mis au hasard la radio, et je suis tombé sur un morceau de musique... Hein, quand je me suis garé devant chez moi, je l'ai arrêté et je suis resté 10 minutes dans la voiture tellement que c'était beau. Juste sous l'effet que j'étais... C'était tard, donc personne ne me voyait. Qu'est-ce que c'est beau. Puis il va bien avec ce psaume, alors. Je vais vous le mettre avec. Juste voir si je suis connecté. C'est pas le bon, bien sûr. Psaume 4. Quand je prie, réponds-moi, Dieu de ma justice, quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Ça, c'est le verset. Hein. Et oh, il y a quelqu'un, allô le ciel, ici la terre. Je suis triste à en mourir. Je me sens tellement seul au milieu de tous ces humains qui ont perdu la raison. Le pire, c'est que je sais bien que je ne suis pas meilleur qu'eux. Et cependant, tu affirmes que je suis juste. Tu m'invites, tu m'acceptes en ta compagnie. Cette justice que tu m'as acquise, tu m'en enveloppes comme d'une couverture de survie pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a dessous, et aussi pour me garder au chaud, pour me protéger du froid mortel, de la solitude et de la peur. Ça va mal, ça va même très mal. Où que je tourne la tête, ça va mal. Les hommes s'entretuent, les forts écrasent les faibles, les puissants méprisent les petits. Mais les petits se révoltent et deviennent aussi méchants que les grands. C'est la spirale de la haine, du mépris, de la colère, du non-pardon. Je sais que tu connais l'horreur de l'injustice, de la souffrance, de la trahison, de l'abandon. Tu peux me comprendre. Alors entends les mots qui montent de mon cœur, de mon âme, de mon ventre. Entends cette rumeur qui gronde dans ma tête, qui me fait mal. Oh oui, entends les pleurs, les plaintes et les cris que je lance vers toi. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Vous, mes compatriotes de ce pays ou d'un autre, vous, les membres de la triste famille humaine qui piétine et méprise la dignité reçue du Créateur, y aura-t-il une fin à votre folie meurtrière? Et mais vous, ces vies vides de sens que vous vous êtes bâties, ces vies sans consistance, sans racines, sans futur. Pourquoi choisissez-vous toujours de construire sur le sable, de mesurer avec un élastique, de vendre de la contrefaçon, de fuir l'authenticité, de promouvoir ce qui n'est pas vrai, de toujours chercher chez les autres la cause de votre malheur et de vos échecs? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Il faut que je vous explique quelque chose d'essentiel. C'est parce que lui a été fidèle que je peux espérer le devenir. C'est parce qu'il a choisi d'offrir la vie de sa vie, le sein de son sein, celui qui est son unique, que je sais que sa fidélité me tiendra debout jusqu'à la fin du chemin. C'est aussi pour ça que mes mots ne restent pas collés au plafond, qu'ils ne sont pas des formulaires sans valeur qui finiront à la corbeille, ou des redites pesantes qui s'écrasent au sol sitôt sorties de ma bouche. Il entend, il comprend ce qui bouillonne en moi. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Arrêtez de tourner en rond comme des fauves en cage en ruminant des plans de vengeance. Cessez de vous nourrir de haine, de rancune, d'amertume, de cultiver la rage au point que vos mains en tremblent comme celles de vieillards séniles. Si la colère enflamme vos cœurs, vos pensées, entrez dans votre chambre, fermez la porte, mettez des mots sur votre exaspération, exprimez votre ressentiment, déversez votre hargne, puis fermez les vannes, laissez les paroles s'éteindre, les invectives retomber au sol, mettez un coup de balai par terre, prenez conscience de la présence de Dieu. Il vous a laissé répandre votre bile, mais à présent, taisez-vous. Il a entendu, il sait, et vous ne voudriez pas qu'il ressorte les vieux dossiers vous concernant. Il ne le fera jamais, il les a détruits. Mais vous savez qu'il aurait des milliers de raisons de se mettre en colère contre vous, cette colère que le paratonnerre divin a attirée entièrement à lui pour qu'elle ne nous foudroie plus. En faisant silence devant lui, vous empêcherez que votre furie fasse de vous ses esclaves, qu'elle vous rende semblable à ceux qui ont provoqué votre courroux. Si vous agissez ainsi, vous ne commettrez rien de répréhensible. Vous ne ferez de tort à personne. Et surtout, vous briserez net la spirale infernale du mal qui par ricochet se propage et s'étend pour atteindre et détruire l'humanité entière. Verset 5. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Prenez le temps de réfléchir au cadeau inestimable que notre Père nous a fait lorsqu'il a décidé de nous exfiltrer de l'enfer. Il nous a pourvu de nouveaux passeports qui attestent de notre citoyenneté céleste. Et comme si ce n'était pas déjà largement suffisant, il nous a aussi offert un certificat de conformité aux normes de sa sainteté. Comment le remercier pour tout cela? Nous n'avons rien de valable à lui donner en retour. Peut-être tout simplement en acceptant ce qu'il a fait pour nous, en décidant de lui faire une confiance absolue. Peut-être qu'une autre idée serait de mettre notre signature en bas d'une page blanche, de la lui donner pour qu'il y écrive ce qu'il attend de nous. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. J'entends cette supplique monter des cœurs blessés, je la vois se dessiner sur les lèvres rendues muettes par la douleur. Je la lis dans les regards éplorés de ceux qui ne savent plus s'il est encore possible d'espérer. De toutes ces âmes chancelantes, meurtries, presque éteintes, s'élève une même question. Est-il encore possible d'espérer des jours meilleurs? Y a-t-il une possibilité, même infime, que nos yeux, un jour, contemplent à nouveau la lumière, que nos cœurs trouvent du repos, que nos vies aient du sens et un avenir? Pourtant, je le sais. Il suffirait que tu te tournes vers nous et tout serait différent. Si seulement nous pouvions contempler un instant la beauté de ta grandeur, ta délicatesse, ta douceur, si notre regard pouvait capter l'immensité sans frontières de ta grâce, de ta sainteté, de ta vérité, plus jamais nous ne serions dans les ténèbres. Tu serais pour nous comme un soleil qui se lève et ne se couche jamais. Mais je viens de comprendre mon erreur. Pour vivre de ta lumière, il faudrait simplement que je me tourne vers toi. 7. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand t'abondent leur froment et leur mou. J'observe ce que si souvent on appelle bonheur, ou pour le dire comme ça se dit maintenant, que du bonheur. Et je suis triste. triste et en colère devant ces montagnes de contrefaçons, devant cette joie de pacotille, de la verroterie à deux balles, même pas capable de faire rêver un enfant, un mauvais cocktail frelaté, une dose d'oubli, deux doigts d'excitation, une bonne coulée de fric, quelques pincées de transgression. Non, c'est une insulte à la joie, la vraie, celle qui se consomme avec les pensées claires, qui remplit, nourrit, rassasie, motive, celle qui ne cherche pas à cacher la misère, mais qui vient de l'intérieur comme une fontaine souterraine dont on ne comprend pas vraiment le mystère, mais qui coule fraîche, pure et désaltère. Cette joie qui nous laisse comme après l'amour, apaisée, comblée jusqu'au bout des ongles, cette joie qui, lorsqu'elle se retire doucement, nous laisse tellement bien qu'on se dit « si je mourais maintenant, il ne me manquerait rien ». Cette joie qui, comme le dit si bien Eric, est la conscience d'une présence, ta présence. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'ai tellement de raisons de m'inquiéter. Où que se portent mes regards, je ne vois que fragilité, fissure, risque de cassure. Si j'essaie de fermer les yeux, mes vieilles cicatrices me démangent. Si je veux fuir en me projetant vers demain, là aussi l'incertitude, le doute, les possibilités mauvaises me guettent, veulent me terroriser. Dormir est devenu un défi, une face nord à escalader pieds nus sans être encordé. Le sommeil est pour moi une convoitise et un effroi. J'ai essayé les petites pastilles blanches qui garantissent un voyage immédiat vers les bras de Morphée. Ça fonctionne, je dormais, mais au réveil j'étais toujours inquiet. Alors je me suis rappelé de la cabane sous les draps où je me réfugiais enfant pour que les monstres ne puissent me trouver. Et je t'ai appelé. En un instant, tu étais là. Tu as construit autour de moi un abri sécurisé. Tu m'as rappelé toutes ces choses que je savais mais que j'avais oubliées. Tu m'as pris dans tes bras. Tu m'as murmuré à l'oreille la plus belle histoire qui ait jamais existé. Tu m'as raconté doucement que rien, 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 rien ne pourra jamais nous séparer, ni la mort, ni la vie, ni. Et lorsque je me suis réveillé, tu étais encore là. J'ai vu que tu avais veillé sur moi sans prendre un instant pour t'assoupir ou tout détourner. Et de te voir, ça a fait jaillir tellement de joie. Je peux enfin dormir en paix.